En un mot, quelle est la qualité qui fait un bon chef d'orchestre ?
La cohésion d'équipe.
Bonjour, vous êtes patron, comment dirigez-vous ?
Alors, je pense que j'ai la bienveillance dans l'entreprise et en dehors, je pense que c'est important.
En un mot, la qualité qui fait un bon chef d'orchestre ?
Bah, sa capacité à entendre, à écouter et puis du coup, c'est à donner la direction.
Vous êtes patron, comment dirigez-vous ?
En alliant la performance, le dialogue, l'humanité et la bienveillance dans l'entreprise.
Vous êtes patronne, comment dirigez-vous ?
Rock'n'roll !
Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM et aujourd'hui nous recevons Mélanie Lévy-Thiébault et on va parler du métier de chef d'orchestre. Mélanie Lévy-Thiébault, elle a fait ses études au CNSM de Paris où elle a obtenu 3 premiers prix, clavecin, basse et musique de chambre. Elle est ensuite partie en Espagne pour se former à la direction d'orchestre où elle a remporté un prix international de direction d'orchestre avec l'orchestre de l'Opéra de Madrid. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Comment on décide de devenir chef d'orchestre ?
Alors moi, je ne l'ai pas décidé. Je me suis réveillée un matin à 6 ans et j'avais envie d'être chef d'orchestre. J'ai dit à mes parents, ils m'ont dit « Bon, écoute, c'est dimanche, on se repose, on en reparle tranquille. » Mais ça a été vraiment une vocation, vraiment un beau matin. Je me suis réveillée, je n'avais que 6 ans et depuis, ça ne m'a jamais, jamais, jamais lâché.
Et pourquoi pas musicienne plutôt que chef d'orchestre ?
Et ça, c'est vraiment la question intéressante parce que je crois que sincèrement, la musique remplit toute ma vie. Mais au départ, ce n'était pas pour la musique que je voulais être chef d'orchestre. Je mettais des disques, évidemment, et je dirigeais les disques, des petites symphonies de Beethoven et tout. Mais je sentais une énergie dans les bras et je me disais si c'est des vrais gens en face de moi, mais l'énergie doit être magnifique, magique, merveilleuse. Je vous le confirme, c'est encore plus que ça. Mais je pense qu'il y avait une sensation de responsabilité aussi. Et je voulais être pilote de ligne. Et pas pour faire décoller des machines, mais c'était vraiment aussi pour me dire que je pouvais enfermer des gens dans un habitacle qui n'avaient pas d'autre choix que de faire confiance au pilote. Je crois qu'il y avait d'abord l'idée de la responsabilité. Et ensuite, l'outil que j'ai utilisé, c'est pas les airs. Enfin, c'est les airs, mais de musique. Pas les airs des cieux, mais les airs de musique. Et j'ai toujours ce grand sens de la responsabilité.
Et alors, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert exactement un chef d'orchestre dans un orchestre ? C'est quoi sa mission ?
Mais tout à fait, c'est une très bonne question. Les gens disent souvent, c'est une question bête, on ne sait pas à quoi sert le chef. Parce que le chef, il ne fait pas de son, il fait jouer les autres. Il agite sa baguette et on ne voit pas. Alors, les gestes sont quand même assez codifiés. Mais ce qui est important au-delà des gestes, parce que je pourrais t'apprendre quelques gestes tout à fait correctement, mais au-delà des gestes, ce qui est important, c'est vraiment l'énergie qu'on passe à l'autre. L'énergie qui fait que l'autre a envie. C'est donner envie à l'autre. Et ça, ça s'apprend, mais il y a quelque chose d'inné aussi là-dedans. C'est vraiment sentir l'énergie de l'autre, aller vers l'autre, le découvrir, être curieux. Et c'est ce qu'il y a de plus beau dans la direction d'orchestre, je pense.
Est-ce qu'il y a d'autres qualités pour être un bon chef d'orchestre ?
Il y a la connaissance de la musique, bien sûr, et c'est vraiment un véritable savoir qui doit devenir une vraie connaissance. En plus, le répertoire de musique dite classique est immense. Je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout diriger, pour tout connaître. Et puis, il y a la recherche, cette quête de savoir comment les compositeurs ont voulu jouer les choses. Donc, il y a une recherche sur le patrimoine. Parce que finalement, on est en 2019 et on est en train de vous dire que les œuvres de Mozart sont toujours aussi extraordinaires. C'est quand même magnifique. Ça veut dire qu'on arrive à amener le patrimoine avec nous. Donc, c'est une vraie mission, le chef. Et puis, moi, j'axe tout sur l'humain. C'est-à-dire, l'autre est devant moi, il va jouer. Comment je fais pour qu'il se sente à l'aise, qu'il ait envie de jouer et qu'il ait envie surtout de se dépasser ? Ça va être important. Qu'il ait même envie de prendre des risques avec son instrument. Ça, c'est les plus beaux cadeaux que nous font les musiciens. C'est quand tout d'un coup, ils tentent des choses invraisemblables et bien, qui nous amènent à la magie du son,
Ouais, et comment est-ce que toi, tu diriges tu peux, j'imagine que tu diriges sans doute avec tes bras, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce qu'il y a le regard ? Est-ce qu'il y a la posture ?
Tout à fait. C'est une très bonne question aussi parce que les bras, bien sûr, sont très, très importants. C'est le vecteur entre moi, entre mon corps et eux. Au bout de ces bras, il y a l'énergie. Et puis, il y a une baguette aussi qui prolonge le bras. Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et j'ai fait du sabre. Et c'est vrai que le sabre aussi, c'est pareil. Notre professeur de sabre, il disait, mais passez votre énergie dans la lame. Et c'est pareil. On passe l'énergie dans la baguette en bois qui doit se dépasser. Donc oui, il y a l'énergie, il y a le regard, il y a toute la ceinture abdominale parce que le ki, enfin vraiment toute l'énergie se est au niveau de cette ceinture abdominale. Donc on travaille beaucoup sur le corps. Et puis il y a bien sûr le cœur aussi. On travaille avec notre cœur. C'est un métier d'amour en fait, de joie et d'amour.
Et alors, tu es une femme d'orchestre, comme la France en compte peu, puisqu'il n'y a que 3% de chefs d'orchestre qui sont des femmes. Est-ce que c'est difficile de s'imposer en tant que femme devant les musiciens d'orchestre? Et est-ce que c'est pour ça, du coup, que tu as fait des arts martiaux?
Non, j'aurais pu, mais je n'ai pas pensé. Parce qu'en réalité, je ne me suis jamais posé le problème sous cette forme-là. Moi, j'étais petite, j'avais 6 ans, je ne me suis pas rendu compte. En fait, je voulais piloter des avions ou diriger des orchestres. Je voulais être shérif aussi. Donc, voilà, c'est vraiment le sens de la responsabilité. Et le sens de la responsabilité, c'est quelque chose de typiquement féminin en réalité. Hein. Il y a un côté maternant, il y a un côté je protège les autres et je pense que ça, c'est assez féminin. Après, tout ce qui se passe en ce moment, il y a une vague féministe que je trouve très agressive et qui veut tout de suite. Moi, ça a été très beau d'avoir à faire un grand chemin, un long chemin. Ça m'a donné beaucoup d'expérience, ça m'a donné beaucoup de sagesse, ça m'a donné beaucoup de recul. Et oui, il n'y a que 3% de femmes qui exercent actuellement, mais il y a un concours à la Philharmonie de Paris qui s'appelle la Maestra Competition, où là, elles sont, je ne sais pas, 70 à se présenter. Et je trouve que ce n'est pas bien. Parce qu'on clive au lieu d'unir. On leur dit, bon, bah, finalement, on va vous faire un concours à part. Et donc, on va créer un monde à part. Et moi, ça me rend vraiment très triste. Moi, peut-être c'était difficile, mais au moins, je n'étais pas à part. J'étais avec les autres et surtout avec les hommes. Moi, en tant que femme, j'ai besoin des hommes. J'ai besoin de leur protection, j'ai besoin de leur force, j'ai besoin de leur regard sur les femmes. Et on est en train vraiment d'annihiler ça avec cette vague féministe qui veut vraiment une société pratiquement matriarcale, mais ça ne peut pas marcher, ça peut pas marcher.
Alors toi, tu as été chef invité pour de nombreux orchestres, alors j'en cite quelques-uns, Lausanne, Liège, Saumur, Paris. Comment est-ce qu'on fait pour diriger un orchestre que l'on ne connaît pas?
Oui, alors le chef invité, c'est ça. C'est le chef qui va, bah, c'est comme les entreprises, moi je le dis souvent en rencontre APM, dire que c'est tout d'un coup un chef d'entreprise qui vient prendre un projet, une mission sur un mois, deux mois ou trois semaines et qui ne connaît personne dans l'entreprise, mais qui doit s'imposer par son charisme et on dit, bon bah voilà, cette mission-là, c'est avec monsieur un tel ou madame un tel. Et c'est extraordinaire parce que finalement, ça nous demande une adaptabilité assez impressionnante. On doit tout de suite se dire, ben non pas s'imposer, mais justement s'intégrer. Et c'est là où voilà, beaucoup de chefs disent, bon, je dois m'imposer dans les 5 premières minutes, mais en fait, c'est s'intégrer, s'adapter à l'autre et sentir l'entité qu'on a en face de nous. On arrive des fois devant des orchestres où il y a des soucis, c'est tendu. On arrive des fois devant des orchestres qui sont fatigués parce qu'ils rentrent de voyage. On arrive devant des orchestres des fois qui sont assez jeunes, des fois. Et ça, c'est absolument passionnant. Et les invitations, c'est ça, c'est aller faire de l'événementiel, en fait, du coup par coup, où on ne connaît personne et on s'adaptent. Et eux s'adaptent à moi aussi, finalement. Hein. C'est le challenge. Hein.
Et alors, comme tu parlais de manager, hein, les managers, chacun a son style. J'imagine que c'est la même chose pour un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre. Toi, c'est quoi ton style?
J'en parlais avec Philippe Fournier et Michel Podola, qui sont les autres chefs de l'APM et qui gravitent dans ce monde. Et on en parlait. Chacun a sa technique, chacun a sa manière de faire. Et en fait, je pense que c'est la manière dont on est humain et dont on vit. Moi, je suis devant les orchestres comme je te parle là maintenant, donc je ne vais pas changer mon attitude, je ne vais pas changer... C'est très difficile à définir, ça. Il va y avoir des chefs peut-être très autoritaires. Moi, je suis assez diplomatique, je pense, mais je pense qu'il y a une exigence que des fois, les musiciens, parce qu'ils me le renvoient, ça, sentent une sorte d'autorité, peut-être même parfois de dureté. Je fais attention à ça. En fait, c'est vraiment, je cherche l'excellence, en fait, mais pour eux, pas pour moi. Mais j'essaye toujours d'être très diplomatique, c'est important, et d'être très gentil, en fait. Un musicien peut très vite se vexer de quelque chose dit, même de manière pas du tout méchante, légère, mais qui va aller toucher un point qui est sensible actuellement, parce qu'il est dans une recherche, lui aussi.
Comment est-ce qu'on fait pour respecter une œuvre, être vraiment dans une recherche de performance et en même temps avoir son authenticité, conserver son authenticité?
Ça, c'est le plus dur du travail du chef d'orchestre, c'est être seul avec une œuvre, avec un patron qui s'appelle Mozart ou Schumann ou Ravel. Quand on l'appelle, il ne répond pas. Alors moi, j'ai fait du chamanisme, je les appelle dans mes voyages chamaniques. Des fois, j'ai quelques réponses dans mes rêves. Mais surtout, je travaille énormément, comme un metteur en scène le ferait avec une pièce de théâtre ancienne de Molière, par exemple. Il analyse l'œuvre, il connaît le contexte dans lequel Molière l'a écrite. Il fait des recherches sur l'historique de l'œuvre et au fur et à mesure, il va en sortir l'essence et surtout se dire c'est ça qu'il a voulu dire. Et à chaque fois, je me dis voilà, c'est pas du Mélanie Lévy-Thiébaud que je fais, c'est du Mozart, du Schumann, de Ravel. Après, j'ai mes affinités. J'ai l'impression que je comprends mieux certains compositeurs que d'autres, mais ça peut évoluer au fil du temps, justement. C'est vraiment la recherche de l'autre, qu'il soit mort ou pas, finalement. C'est ça qui est très, très beau.
Et alors, tu as aussi créé ton propre orchestre, ça s'appelle l'Orchestre Manifesto, avec une idée en tête, faire se rencontrer la musique avec d'autres arts et d'autres formes de pensée. En quoi ton orchestre, il est à part ?
C'est un peu un orchestre laboratoire. Hein. Je l'ai créé en 2005. Alors, la première création, c'était Don Giovanni de Mozart. Bon, rien d'extraordinaire. Tout le monde joue Don Giovanni de Mozart, à part que c'était mis en scène par un psychiatre. Et on a étudié toute la pathologie des personnages. Enfin, c'était assez extraordinaire. Il avait intégré des patients à lui dans la production, à la billetterie, à la régie. Et un jour, je lui ai dit, mais écoutez, excusez-moi, il faut que je sache quand même qui sont les malades dans la production. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Mélanie, on ne sait pas vraiment qui sont vraiment les malades. Je me suis sentie vraiment visée. C'était passionnant. Donc ça a été vraiment l'ADN de Manifesto. Et puis après, oui, se rencontrer les autres arts, musique et peinture, musique et philosophie, comme aujourd'hui à l'APM, musique et acoustique. Et tout d'un coup, la musique, c'est d'abord du sonore. C'est pas juste des jolis sons qui sont ensemble, c'est du son qui est manifesté. Et Manifesto, d'ailleurs, c'est le nom. C'est vraiment une manifestation de l'art telle que j'ai envie de le montrer aujourd'hui, avec un débat, avec une salle qui participe, qui donne son avis, qui réagit, qui aime, qui n'aime pas. Mais c'est pas notre sujet, aimer ou pas. C'est se questionner. Et aujourd'hui, tous les adhérents à APM, on les a vraiment questionnés sur leur univers sonore, sur les sons de synthèse, sur l'homme et la machine. Moi, la machine, aujourd'hui, la musique contemporaine, elle est avec la machine. On a des sons des sons distordus, des sons de synthèse qui sont mis dans des claviers MIDI, dans des ordinateurs, et pourtant ils créent de l'émotion. C'est ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui. Il y en a qui sont sortis de la salle quand on jouait l'œuvre, hein, mais qui vont venir me dire c'était horrible, c'était agressif. Mais très bien, ils ont été questionnés là-dessus.
Mélanie, merci beaucoup pour cet échange. Comme tu le sais, hein, l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quels conseils tu peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent ?
La joie, l'amour, l'envie de faire et de continuer de se rencontrer. Parce que si peut-être je leur apporte un peu quelque chose avec mon monde qui est éloigné du leur, ils m'apportent eux aussi énormément. Et c'est ça l'ADN de l'APM, c'est aussi cet échange-là. Donc j'ai envie de leur dire de rester tout le temps dans l'échange, tout le temps dans le partage, tout le temps dans l'écoute de l'autre. Et ça se manifeste par de l'amour en fait.
Merci beaucoup.
Merci.
En un mot, pour vous, l'APM, c'est quoi ?
L'APM me permet de sortir du cadre.
Des idées appliquées au sein de la société.
À la fois un réseau, des réflexions nouvelles, une ouverture sur des thématiques qui ne sont pas familières. C'est aussi, je dirais, des lieux et de rencontres et des expériences tout à fait nouvelles. Voilà, c'est un plus, c'est une oxygénation de son quotidien, d'une certaine manière.
La remise en question.
Connaissance.
Ça m'apporte beaucoup d'idées, beaucoup de façons différentes de voir les choses. Et pareil, j'en reviens au management, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment une ouverture d'esprit.